Allô, Régis. Allô, Régis. Ici Marcel. Régis, tu m'entends? Je suis actuellement caché dans les papiers toilettes des WC. Allô, Régis, tu m'entends? Oh là, je vois le patron de Positive Land qui contemple ses stock options. Qu'est-ce que je fais? Allô, Régis. Je répète, je suis dans le rouleau de PQ et je vois avec ma petite caméra le patron contempler ses stock options. Qu'est-ce que je fais?
C'était Bruno de Paris. Merci pour votre reportage. Il m'a trop fait rire, mais on rit jaune en fait. Allez, ciao.
Hier, j'entendais votre émission. Le plus drôle, c'est que j'allais à Carrefour et que je n'ai pas fait mes courses tout à fait de la même façon. Bon, non pas que je pique, mais je regardais tout le monde pas avec le même œil. Bon, d'autre part, bien que le directeur des ressources humaines me dise, c'est grandiose que ça n'existe pas, ce flicage, bon, j'ai une de mes petites voisines qui est caissière à Carrefour, dans un Carrefour de notre région, qui a été accusée de vol. Elle a un gros défaut, c'est qu'elle est syndiquée et à la CGT, qui plus est. Bon, elle a été défendue. On n'a absolument pas pu prouver qu'elle avait volé quoi que ce soit. D'abord, c'est pas le style. On l'a changé de poste. Elle a eu une pression formidable. Et comme elle a du cran, elle ne lâche pas. Voilà. Alors, bon, j'espère que le directeur des ressources humaines fera un petit peu son travail à fond et qu'il ouvrira les yeux, comme tout le monde les ouvre. Voilà. Au revoir.
J'ai entendu depuis deux jours l'émission sur les problématiques de Carrefour. Le DRH qui tente de s'expliquer et de dire que dans son magasin, tout est tout beau et tout rose. Moi, je n'y crois pas du tout. Bien sûr, son image, ses relations ont du poids et on laisse le sale boulot à un sous-fifre que l'on condamne lorsqu'il parle. La souffrance des employés, tiens. J'ai travaillé en grande surface, pas chez Carrefour, chez Leclerc, où on fliquait. On faisait craquer, on licenciait, pour n'importe quel motif, au bon goût du patron. Ces pratiques, elles existent dans tous les supermarchés, sans scrupule, où les employés sont considérés comme du bétail. On n'a pas toujours les moyens de se défendre, et ça ne va pas s'arranger. Ça ne va pas s'arranger avec les nouveaux contrats d'embauche, avec deux ans d'attente pour que le salarié se fasse virer la veille du contrat. Merci.
L'histoire relatée hier d'une accusation injuste d'un chef de sécurité de Carrefour m'a tristement rappelé l'histoire arrivée il y a 20 ans en URSS à un membre de ma famille. Directrice d'une petite unité de production, ma belle-mère s'est vue accusée à tort de vol dans l'entreprise sur dénonciation anonyme. Heureusement, elle n'a pas été condamnée. Ces grosses entreprises multinationales telles que Carrefour, fortes de leur toute-puissance face à ceux qui ont besoin d'un salaire pour survivre dans un contexte de chômage de masse, ne sont pas loin d'utiliser les méthodes de ces régimes totalitaires qu'on nous présente aujourd'hui comme le modèle de l'inefficacité économique. Si les néolibéraux parviennent à leur fin et réussissent à tuer l'état de droit comme ils le souhaitent, que deviendrons-nous face à ces seigneurs féodaux du troisième millénaire ?
Bonjour, je vous félicite pour vos émissions sur Carrefour. C'est toujours étonnant aujourd'hui de voir un média faire son travail de contre-pouvoir. Néanmoins, le problème posé est celui de la grande distribution dans son ensemble. La grande distribution est un phénomène très français que nous exportons. Les politiques tentent quelquefois de résister aux multinationales Carrefour, Auchan ou Leclerc, mais les médias dominants ont complètement démissionné. Pourquoi ? Carrefour a versé 266 millions d'euros aux médias via la publicité en 2004. Auchan, 131 millions d'euros et Leclerc, 219 millions d'euros. Résultat, au lieu d'être mis en accusation, Michel-Édouard Leclerc est régulièrement invité par tous les médias pour donner son avis citoyen et faire la morale aux Français. Alors le scandale que vous avez participé à révéler, va-t-il trouver sa juste place dans les médias? J'en doute, car la main qui donne dirige. Voilà, bon courage. Merci, c'était Vincent de Lyon.
Oh, ben dis donc, la main qui donne dirige, bravo. Mais nous, on est très déçus, hein. On est très très déçus avec toute l'équipe de la base où j'y suis. Cette semaine, on a essayé de faire quelque chose de positif avec François Ruffin. On nous reproche tellement de déprimer la terre entière. On a dit, voilà, on va positiver. Et on est allé faire du shopping, voilà. Et puis on est tombé sur cette histoire chez Carrefour. Vous avez compris l'histoire, le témoignage de ces deux agents de sécurité qui, après avoir témoigné déjà dans un reportage sur Antenne 2, puis dans l'Humanité, ont témoigné aussi, dans le quotidien l'Humanité, puis ont témoigné aussi à notre micro, ont raconté longuement leur histoire, et une histoire ambiguë, évidemment, toute l'histoire est là, c'est que c'est ambigu, c'est que c'est des gars qui ont fait des trucs, pas très, 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 très frais, mais qui balancent, qui avouent, et donc il y a une ambiguïté dans leur intervention qui vous a fait balancer d'un côté, de l'autre, c'est des salauds, c'est des capots, ou bien voilà, mais c'est de la faute à le monde dans lequel nous vivons, c'est de la faute à Carrefour. En fait, là, il y a eu des tas d'interprétations, beaucoup, beaucoup de messages. Alors c'est rare qu'on ait autant de messages, évidemment, ça nous a fait bien plaisir, mais on est déçus, on aurait tellement voulu avoir un message positif, quelque chose de souriant, c'est un peu loupé, et vous allez l'entendre tout au cours de cette émission, tout au cours de cette heure, qui ne va pas être loupé du tout, parce que c'est les messages que vous avez laissés tout au cours de la semaine, sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37. Alors, on va retourner un petit peu chez Carrefour, parce que on s'était promis de rencontrer l'un des syndicalistes. Alors là, c'est vraiment le héros, le gars qui essaie quand même de faire du syndicalisme là-dedans, c'est quelque chose. Mais vous allez voir qu'il n'y a pas que ça dans la vie.
J'ai 47 ans, ouais, j'habite à La Ciotat depuis 40 ans, vous rendez compte, la belle ville que c'est. C'est la capitale mondiale du cinéma, et oui, les frères Lumière ont fait le premier film au monde, et puis aussi, on a inventé la pétanque, vous savez. Et comme la pétanque a été inventée à La Ciotat, nous avons le plus vieux terrain de boule à La Ciotat, qui s'appelle les pieds tanqués. Ce qui veut dire en marseillais, tanqué, ça veut dire planter. Quand on plante un clou, on peut le tanquer, vous voyez. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que la nouvelle mairie de droite qu'il y a, elle n'a rien trouvé de mieux que de tout vendre, tout raser et construire des immeubles. C'est pas génial ça? Hein? Et après, nous qui habitons à La Ciotat, on va pas pouvoir se loger. Parce que c'est tellement cher ce qu'il construit, ce capitaliste. Il s'imagine qu'une ville qui a vécu toujours de la navale et qui est une ville d'ouvriers va devenir une ville de bourges. Mais il rêve. Il est comme tous les autres de droite. Vous rêvez. On ne partira pas de La Ciotat. Enfin, c'était pour vous dire que la pétanque, eh ben, ça va bientôt ne plus exister. On va mettre des immeubles à la place et les imbéciles qui habiteront là, dans ce parking, hein, dans ce truc, eh ben, ils ne le sauront jamais. S'il n'y a pas des gens comme moi qui essayeront de ne pas oublier notre passé qui était si beau, hein, pour remplacer par des gros buildings. Bon, allez, bisous à tous. C'est Christian de La Ciotat qui vous écoute depuis l'âge de 16 ans aussi. Hein, on ne peut pas écouter autre chose que France Inter quand on a les oreilles débouchées. À bientôt. Salut.
J'aurais pu vivre au Pôle Nord, du côté d'Aix ou d'Avignon. J'aurais pu vivre au pôle sud, habiter Bandol ou Toulon. J'aurais pu vivre en Alaska, à Katmandou, à Bornéo. Ouais, mais j'habite à La Ciotat, avec la mer et les bateaux. Ma pitchounette, sous la tente, dans une case ou un igloo. J'aurais pu parler le bulgare, le finnois, le chinois, l'ourdou. Habiter dans l'Himalaya, ah ouais, mais pour le ski je suis pas chaud. Alors j'habite à La Ciotat, le torse nu, les pieds dans l'eau.
Troisième semaine du mois Carrefour.
Champagne,
Salut, c'est Daniel Mermet, la basse, j'y suis avec toute la bande, le répondeur du vendredi.
Flight number 2, arriving from...
Bonjour Christine, et ben ça y est, de Clazé, ça y est, 49.3, bon ben il faut y aller, cette fois-ci il faut y aller, grève générale, pourquoi ? Pas tellement contre le CPE, bien sûr contre le CPE, mais surtout contre la mise à bas de la démocratie de notre République, bon sang ! Alors tout le monde dans la rue et grève générale, qu'est-ce qu'il faut d'autre ? Qu'est-ce qu'il va falloir encore ?
Moustapha de Lille, bonjour Mermet, bonjour à tous les auditeurs. Alors voilà, sur la liberté d'expression, moi je suis pour, mais ça dépend laquelle. Je vais essayer de m'expliquer. En fait, c'est un peu de l'ironie parce que, rappelons-nous un petit peu de Dieudonné. Et c'est un parallèle avec les caricatures sur le prophète de l'islam. Alors, Dieudonné, que fait-il ? Il caricature un extrémiste, un colon, donc extrémiste israélien, et on l'interdit d'antenne, personne ne relève la liberté d'expression d'un artiste. Et en parallèle, au Danemark, on fait un dessin et on est outré du fait de la réaction des musulmans qui veulent eux aussi interdire une forme de liberté d'expression, même si pour moi ça relève plus de l'insulte que de la caricature. Mais là, je vais pas être objectif parce que je suis musulman de confession. Mais quand même, ce parallèle est intéressant, quoi. Comment c'est qu'on a banni Dieudonné de tous les plateaux? Alors qu'il avait en plus une décision de justice favorable. Alors c'est quand même étrange, quoi, qu'on puisse caricaturer certains et pas d'autres. Voilà, à réfléchir. Merci Mermet, merci à tous les éditeurs, et puis vive la liberté d'expression, mais de toutes parts. À bientôt. C'était Moustapha de Lille.
Oui, bonjour, je suis Delphine Souhaitard de la CIMAD à Toulouse et je suis réunie à la gare à cette heure-ci, donc il est 10h, 22h, avec trois familles qui vont se retrouver cette nuit dans la rue. On a 10 enfants plus 5 adultes qui sont actuellement sans solution de logement. Et donc nous recherchons des solutions de logement. Déjà hier soir, ces familles étaient dans cette situation-là. Au dernier moment, entre 22h et minuit, on a pu trouver une solution de logement. Et ce soir, à 22h, nous sommes à la gare avec sa famille, sans aucune solution de logement. Donc c'est la CIMAD et un collectif réunissant des partis politiques, des associations et des syndicats qui se réunissent ici à la gare pour essayer de faire débloquer la situation par la préfecture et la DAS via le 115. Et donc je vous rappelle, je suis Delphine Souhaitard et je suis actuellement bénévole à la CIMAD à Toulouse. La CIMAD, CIMADE. Merci beaucoup, au revoir.
Salut Daniel, c'est David de Tours. J'appelle pour parler de la mobilisation tourangelle contre le CPE. Alors ici à l'UIT, nous sommes en grève depuis mercredi après-midi et on réalise pas mal d'actions assez diverses pour sensibiliser les gens aux dangers du CPE. Alors on organise notamment une manifestation le mardi 14 février à 10h à Tours, départ place Jean Jaurès, donc venez nombreux. Et par ailleurs, une discussion sur le CPE aura lieu le lundi 13 février à 18h à l'IUT de Tours Nord, à laquelle on a invité des gens d'obédience et d'avis assez divers. Donc on espère qu'ils seront présents et vous êtes tous conviés. Allez, salut.
Voilà, ça bouge sur le répondeur de la basse, si j'y suis. Est-ce que ça bouge comme ça à travers tout le pays? C'est autre chose. La CIMAB à Toulouse, vous pouvez les contacter sans difficulté. C'est pas mal aussi la comparaison, évidemment. Dieudonné. Voilà. Eh oui, vu comme ça, si on joue à la liberté d'expression sans frontières et sans limites, jusqu'où ira-t-on? Et puis, évidemment... appel à la grève générale, dit cette auditrice à la suite du recours au 49.3. Ce ne sont là que quelques échantillons des messages qui vous attendent d'ici à 18h dans la basse du Suisse.
You're the woman, man, you like the low.
Bonjour, je suis Aline Sainte-Rose. Je suis une femme et je suis non-fumeuse. En septembre 2005, il y a 6 mois, j'ai pris ma retraite et on a découvert par hasard que j'avais un cancer d'homme fumeur. J'ai travaillé 15 ans avec une équipe de fumeurs et je voudrais les remercier. Grâce à eux, ma retraite qui s'annonçait sous les meilleurs auspices est rythmée par les interventions, les traitements et la crainte, car c'est une forme très récidivante. C'est tellement injuste. Quand je me plaignais de cette tabagie, on me traitait d'emmerdeuse. Réfléchissez tant qu'il est encore temps.
Bonjour. Ces temps-ci, on assiste à une nouvelle offensive des pro-OGM pour les cultures en plein champ. Et à ce sujet, sur votre antenne, au journal de 13h, il y avait un pseudo-expert qui nous expliquait le peu de danger que ça représentait, au contraire tout l'intérêt que ça avait, en mélangeant encore une fois la culture en plein champ et les recherches à but recherche scientifique médicale. Et c'est pas la première fois qu'on nous fait cet amalgame entre la culture en plein champ qui est pour l'alimentation et qui est extrêmement dangereuse et la recherche médicale qui effectivement est très intéressante mais qui elle se passe en milieu confiné. C'est vraiment un amalgame éculé qui nous sert depuis au moins 5 ou 6 ans. Et ben je suis désolé mais le journaliste de votre antenne n'a même pas relevé. Encore une fois, n'a pas apporté la contradiction. C'est quand même malheureux. Ça fait partie des griefs qui sont faits par les auditeurs de France Inter et qui sont repris notamment dans l'enquête qui est parue dans Télérama. Savoir que les journalistes sont trop souvent des porte-micros et n'approfondissent pas et n'apportent pas la contradiction. C'est franchement dommage, hein. Allez, au revoir.
Ben voilà, on parle plus de colonisation puisque l'article est abrogé, l'article de la loi. Mais on parle d'immigration choisie maintenant, c'est pas mal aussi. Alors à ce propos, il y avait un superbe débat là sur France Inter, à 1h30. Et l'un des protagonistes disait « Parler des immigrés dont on a besoin ». Voilà, le poids des mots, pas besoin de photos.
J'espère que tu ne passeras pas sous silence le massacre du métro Charonne, le 8 février 1962. Massacre perpétré par la police de Papon, qui s'était distinguée un an plus tôt, le 17 octobre 61. Où il a massacré des centaines d'Algériens qui manifestaient dans le calme et la discipline. Quand on pense qu'on est prêt à indemniser aujourd'hui les assassins de l'OAS par la loi du 23 février, l'article 13 prévoit d'indemniser grassement certains membres de l'OAS qui ont préféré se sauver à l'étranger et qui sont revenus après la loi d'amnistie. Mieux, il y a une dizaine de villes du sud de la France où sont érigés des monuments à la gloire et à l'honneur de l'OAS. En indemnisant ces bourreaux, on méprise les victimes. C'est comme si on honorait les assassins du préfet Erignac.
Des martyrs de Charonne et...
Vous pouvez le chanter ? Essaye,
ça
essaye.
Ça serait mieux qu'on chante ?
Oui, essaye, vas-y. Vas-y.
Des Algériens.
Toutes les deux ? Bah oui, non.
Charonne, c'est un métro, c'est quoi ? Une bouche ouverte à la rue. Qui nous fait chanter quelquefois des souvenirs qui nous remuent. Y'a des sentiments qui résonnent, page noire de l'histoire de France. Y'a des petites idées qui dansent, ça y est, nous voilà à Charonne. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? On s'y arrête quelquefois. Rue des Boulets, Charonne, Voltaire, en 62, c'était la guerre. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? Quand j'entends parler de Charonne, j'entends des cris, j'entends des voix, le fascisme ne passera pas. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? Un jour de manif à Paris, un jeudi noir, il faisait froid, les journaux titraient l'Algérie. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? La nuit tombée, ils étaient là. La manif était interdite, quand il y a la guerre, pas de politique. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? Pour des militants ouvriers, que ce soit ici ou là-bas, contre la guerre, faut résister. Charonne, c'est un métro, c'est quoi? On était loin de la bavure. La police avait tous les droits, carte blanche de la préfecture. La police a cogné, jeté dans la bouche ouverte à la ville. Massacré, piétiné, frappé, écrasé sous le poids des grilles. Charonne, c'est un métro qui saigne. Les cris, les voix hurlent encore. Les larmes des lacrymogènes, trois filles et cinq garçons sont morts. Charonne, c'est un métro, c'est qui? Quand j'entends parler de Charonne, c'est la Palestine qui résonne. Et l'Algérie, celle d'aujourd'hui.
Oui, salut Mermet. Bon, tout le monde va parler du CPE. Moi, je voudrais parler de l'émission de lundi soir, là, avec le monde diplomatique. Alors, je sais que nous sommes à la radio, mais c'est claquement qu'on entend derrière, là. Même si la profession de bruiteur existe toujours à la radio, je voudrais savoir ce que c'est, quoi. Est-ce que c'est des crépitements de bûches au coin du feu, des claques qu'on distribue? Bon, en tout cas, c'est un peu énervant, quoi. Bon, ça, c'est pour la forme. Mais par contre, pour le fond, c'est toujours très bien. Allez, salut à tous.
Mais non, c'est pas des claques ni qu'on distribue pendant qu'on enregistre l'émission avec l'équipe du monde diplomatique. C'est pas non plus, on fait pas ça non plus quand même trop au coin du feu. Je vais vous expliquer. On enregistre cette émission dans les bureaux du monde diplomatique et on enregistre ça sur une vieille table ronde à laquelle ils tiennent beaucoup et qui grince et qui couine comme ça. Voilà, de temps en temps, ça fait ce petit bruit caractéristique. Mais il n'y a pas plus de signification que ça. Ce qui prouve quand même que vous avez l'oreille drôlement fine pour tout ce qui se passe quand même dans cette émission modeste et géniale d'ailleurs, hein. Mais aujourd'hui c'est vous qui êtes quand même plutôt modeste mais surtout géniaux.
Je suis une infirmière syndicaliste par ailleurs à la CGT et je ne peux pas laisser dire à monsieur Filoche qui, même si son raisonnement sur le CPE est tout à fait correct, je ne comprends pas ce qu'il faut au PS par ailleurs. Dans ces cas-là, je ne peux pas laisser dire que la gauche a freiné le libéralisme. C'est faux, vous savez très bien. Le gouvernement Jospin est celui qui a le plus privatisé de tous les gouvernements. Et c'est le livre blanc de Rocard, donc sous Mitterrand, qui a commencé la remise en cause des retraites par répartition et qui a promotionné les retraites par capitalisation. C'est ensuite Jospin qui a signé à Barcelone la prolongation du temps de travail au niveau de l'Europe. C'est la gauche qui a... C'est le gouvernement Mitterrand qui a soutenu Maastricht, etc., etc., etc. Alors dire que la gauche a freiné le libéralisme, alors là, vraiment, c'est gros. Deuxièmement, aujourd'hui, ceux qui disent être contre le CPE, comment se fait-il que le responsable CGT, la direction nationale de la CGT, tout ce qu'il trouve à dire, c'est le problème, c'est la période d'essai. Il parle pas de la destruction, il met pas ça en relation avec la destruction du code du travail, comme l'a fait Filoche, je le reconnais. Ils disent qu'ils veulent mener une bagarre contre le CPE et ils proposent de créer une sécurité sociale professionnelle et un statut du salarié qui en fait va complètement dans le sens de l'individualisation des droits et des garanties. Alors là, il y a un petit problème, non, vous croyez pas? Voilà, au revoir.
J'étais dans la rue aux côtés des jeunes pour faire jeter à la poubelle le CPE, mais aussi pour défendre leurs droits d'hommes et de femmes. Et ce manquement des politiques à leur intelligence et à leur esprit critique est franchement un affront. Car demain, seuls les enfants de riches et les élites auront le droit de gouverner et de bouffer jusqu'à en crever. Moi, j'ai vu des jeunes, je les ai vus et entendus. Ils sont merveilleux, plein d'initiatives et de talents. Et ne nous y trompons pas, car si nous ne sommes pas avec eux, eh bien... Notre droit d'exister sera terminé. Ce sera aussi la fin du droit au travail, aux libertés, à l'esprit d'initiative. La droite libérale alliée à un patronat surpuissant, grâce à elle d'ailleurs, a bien compris qu'en éliminant tout simplement le droit au travail, tel que nous l'avons construit, je dis bien tel que nous l'avons construit depuis 36 et même peut-être avant, était le seul moyen de faire taire leurs exigences. Tout est basé sur la peur. Mais ces jeunes ont bien compris eux aussi quel était le piège tendu
et ils se battront, et j'espère que nous, avec eux, à leur côté. Salut Daniel, c'était Morissette du 14e, au revoir.
Bonjour Daniel, c'est Valérie de Aix-en-Provence. J'appelle au nom des comités locaux Attaque des Bouches-du-Rhône concernant la mobilisation contre la directive Bolkestein soumise au vote du Parlement européen le 14 février prochain. En écho de la manifestation de Strasbourg du 11 février contre cette directive, nous avons décidé de manifester localement dans le cadre de collectifs ou non. Il y aura un rassemblement à 15h, donc samedi 11 à 15h, devant la mairie de la Ciotat ainsi que devant la mairie d'Aix-en-Provence, où les adhérents et sympathisants de Attaque Gardanne sont aussi conviés. À Marseille, une table d'information et des signatures de pétition auront lieu à partir de 14h devant le centre Bourse et rue Saint-Féréol. À Arles, une table d'information et des distributions de tracts se tiendront samedi matin sur le marché. Toutes celles et ceux qui veulent nous rejoindre pour refuser cette directive sont les bienvenus.
Les idées saines, qu'est-ce que c'est?
Les Français sont paresseux.
Car ils ne savent pas qu'à force de ne pas travailler, ils ne travailleront plus du tout.
Il va être possible de travailler plus pour gagner plus.
Les Français sont paresseux.
Pour en finir avec une spécificité française, le déficit de travail.
35 heures.
Et nous, comme des imbéciles, on dirait, il y en a qui ne vont pas travailler. Bon, on va tous au chômage, c'est tout. C'est ça la vérité.
Les Français sont paresseux.
Rendre au travail sa place dans notre société.
Il ne faut pas travailler, il faut gagner beaucoup d'argent, il faut partir en vacances.
Les Français sont paresseux.
Julie, ça fait 3 ans. 3 ans que Julie pour rien. Toi, ça fait 2 ans que tu pour rien. Laetitia, ça fait 4 ans qu'elle ne pour rien. On fait rien.
On savait pas que le travail, c'était dur à trouver.
Moi, je comprends pas, franchement, non. Vous êtes déjà pas capable de vous lever le matin pour aller chercher?
Bah, toi, pareil, c'est
corporel. Bah, si, quand on cherche, on trouve.
Ça veut dire surtout que quelque chose ne tourne pas rond dans le travail aujourd'hui en France.
Les Français sont paresseux.
Bonjour, paresse.
Rien à craindre, qu'à pas travailler, on va en vacances tout le temps.
Les RTT qui ont créé de mauvaises habitudes.
Pour pas travailler, pas travailler.
35 heures.
Mais de là à dire que ce qui est bien, c'est d'attendre son chèque à la fin du mois sans en ficher une rage.
35 heures.
Mais vous n'avez pas encore convaincu la France qu'elle devait se remettre au travail.
Il faut gagner plus si le travail.
Se défoncer pour une grande entreprise, c'est trop con, tu es sûr de te faire avoir.
Bon, on va tous au chômage, c'est tout.
Il faut travailler plus, on travaille plus assez en France.
Les Français sont paresseux.
Ouais, salut, c'est Mike, j'appelle du nord de la France. Je viens d'écouter l'émission de Daniel là, concernant Carrefour qui est positive. Et je crois que j'ai entendu, enfin j'ai pas tout compris parce que j'ai pris ça en cours d'émission, mais il m'a semblé entendre un type de direction des ressources humaines qui parlait de la politique de Carrefour, que c'était pas dans leurs habitudes, enfin etc etc, qu'il n'y avait pas de preuves. Enfin, moi je peux vous dire que j'ai bossé quelques mois dans un Carrefour du nord de la France, je ne citerai pas l'endroit parce que j'ai failli avoir des ennuis. J'ai travaillé notamment dans la sécurité. Au début c'était bien, j'avais un boulot, j'avais un taf pour faire nourrir ma famille. Et petit à petit, on m'a demandé de commencer à pister les collègues, à les surveiller, c'est carrément trouver des erreurs pour les virer, parce qu'effectivement, la politique du quota, c'est toujours d'actualité chez Carrouf. Voilà. Donc c'est Mike, et j'appelle du Nord, et puis ben, Carrefour Écully, Carrefour dans le Nord de la France, même combat, même connerie.
Oui, bonjour, c'est Émilie en Charente, près d'Angoulême. Moi, je suis une toute jeune assistante sociale. Et donc, la précarité, c'est le quotidien. L'exclusion, c'est le quotidien. Les familles avec les enfants qui n'ont pas de passe fric, rien, c'est le quotidien. Et là, d'entendre ce mec qui a été vigile à Carrefour et qui visiblement n'avait pas de difficulté à jouer les pseudo-détectives privés de la boîte Carrefour, ça me fait vraiment vomir, quoi. Je sais même plus où, dans quoi on vit le CPE. Allons-y gaiement en tant qu'affaire. C'est du grand n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on devient? Et vraiment, on laisse faire. Alors oui, les lycéens, les étudiants, tout le monde, certains se bougent surtout. Et les autres, je veux dire, les travailleurs sociaux, moi je fais partie de cette famille-là. Il y en avait pas, j'en sais rien. J'ai rien entendu autour de moi, dans mon institution, il n'y avait rien. Voilà, bon, je sais plus quoi penser. J'ai la motive quand je me lève, et puis le soir, en même temps, merci quand même, hein, salut.
J'appelle par rapport au message de mercredi soir et je m'étonne que les gens s'étonnent parce que moi, je travaillais il y a 25 ans à Euromarché et ça existait déjà. Et puis, je voudrais dire aussi que le SMIG est à 7,50 € de l'heure et que beaucoup de gens dans la vente sont payés au SMIG. Alors, on s'étonne que ce soit mal payé, mais il y a énormément de gens qui ne gagnent que 7,50 € de l'heure. Voilà, et puis alors j'ai entendu le monsieur de Carrefour, je suis un peu dubitative, mais bon, il a le bénéfice du doute, sans doute. Enfin, ça existe ailleurs aussi que chez Carrefour, et à mon avis, je ne sais pas où est-ce qu'on peut aller faire nos courses pour ne pas cautionner ce genre de choses. Bon, voilà, merci pour tes émissions, et puis à bientôt. Au revoir.
Bonjour, proche d'une personne mise en cause dans un rapport confié à la gendarmerie par M. Serrand, je me permets de m'inquiéter du rôle joué par les syndicats dans cette entreprise privée. Comment peut-on interpeller des personnes sur leur lieu de travail, à savoir une bonne dizaine, suivi de perquisitions sur des on-dit, sans avoir aucune réaction des syndicats en place? Comment laisser afficher dans la même entreprise un courrier de la direction indiquant le lendemain le nom et les motifs de ces interpellations, sans aucune réaction des syndicats? Quelle attitude entend adopter les syndicats pour corriger les techniques mercenaires révélées par M. Serrange? Et enfin, la dite société Carrefour entend-elle redonner l'honneur qui leur est dû aux personnes licenciées avec un extrême abus et s'engager à ne plus imiter leurs concurrents américains? Merci.
Voilà quelques questions posées à la suite de ces reportages. Je rappelle qu'on n'est pas les seuls à avoir fait ces reportages. On les a vus dans les reportages en télé et puis dans la presse écrite. Hein, on fait que prolonger ou additionner notre regard sur cette affaire qui, vous entendez bien, beaucoup d'auditeurs nous l'ont dit. On a reçu on peut dire centaines de messages hein, sur ces affaires de Carrefour, et bien sûr que beaucoup d'auditeurs, comme ce qu'on vient d'entendre, y ont travaillé, connaissent les méthodes, ou dans d'autres magasins comparables, des méthodes de flicage, de délation, sauf que nos deux oiseaux, Régis et Gaston, celui qu'on a appelé Gaston, eh ben ils ont balancé. On va à la question que font les syndicats. On va voir les difficultés qu'il y a à faire du syndicalisme dans ce genre d'endroit un petit peu hostile. Mais auparavant, résumé des deux chapitres précédents.
Avec Carrefour, je positive.
Mais attention.
Le samedi soir, on restait, ou alors le vendredi soir, on restait après 22h, et puis à la pose d'une caméra, il fallait être au minimum deux. On faisait ça jusqu'à 2h du matin, 3h du matin. Le but de ces caméras dans les réserves, c'était tomber du personnel.
Ah, les trois quarts qui sont sur la photo, ils ont tous été virés. Ces trois-là ont été virés. Lui, il est parti sous la pression et s'est pris une année sabbatique, apparemment. Là. Ouais. Lui, il est parti.
Il n'existe plus parce qu'il a fréquenté une caissière.
Il sortait qu'une caissière. Elle l'a dégagé.
Ouais, il y a longtemps.
Lui, il a été viré.
Lui, c'est pareil.
Ils ont tous été dégagés. C'est l'exemple d'un truc de fou. C'est un roman, quoi, ce truc-là. Quelle personne irait imaginer aujourd'hui qu'un magasin surveille son personnel dans des conditions pareilles?
Je pense pas que même le FBI il travaillerait pas comme ça. Quand on faisait des missions comme ça, on se croyait, je sais pas.
De toute façon, à aucun moment on est habilité à faire ça.
Ouais, c'est ça qu'il faut se rappeler, c'est que c'est pas pour surveiller du trafic de drogue ou de l'héroïne qui passerait ou bien. Enfin,
tout ça, tout ce matériel, était payé par Carrefour pour 30 € ou 50 € de grivellerie par semaine ou peut-être par mois.
Voilà, alors ça c'est nos deux témoins qui ont bien raconté leur parcours, comment ils sont entrés à Carrefour, d'abord pour surveiller le magasin, et puis ensuite pour surveiller leurs collègues de boulot, pour en faire tomber certains d'ailleurs ont été licenciés. Ils avouent, ils ont témoigné, ces deux garçons ont témoigné pour beaucoup d'autres qui ne l'ont pas pas fait ou qui n'osent pas le faire. Et toute la question, évidemment, est de savoir quelle est dans quelle mesure l'insécurité sociale généralisée influe sur ces comportements. Mais bien sûr que les auditeurs nous disent, mais attendez, y a une insécurité générale, mais enfin, tout le monde ne se comporte pas de cette façon. Enfin, tous les cas, c'est un débat. Messages que vous avez laissés sur le répondeur témoignent. Mais concernant plus étroitement les difficultés à faire du syndicalisme dans un lieu comme ça, voilà une rencontre avec Thierry Lagnel, qui a fondé un syndicat CGT à Carrefour, et c'est pas de la tarte.
Monsieur Lagnel, vous avez créé un syndicat CGT dans un autre hypermarché Carrefour.
Dès que je l'ai créé, on m'a passé de l'après-midi. On m'a isolé l'après-midi. En 99, le chef de la sécurité a porté plainte contre X avec mon nom sur cette plainte pour vol de tickets restaurant. En fait, c'est mon père est en train de mourir d'un cancer de l'amiante. Donc il savait très bien que j'étais déjà psychologiquement, moralement pas bien. Donc ils en ont profité pour déposer une plainte contre X avec mon nom dessus. Et j'ai été convoqué par la police et perquisitionné pour vol de tickets restaurant. Alors que le jour où j'aurais dû voler ces tickets restaurant, j'étais pas à Carrefour. Pourtant, ils ont trouvé un témoin.
On a retrouvé des montagnes de tickets restaurant chez toi ?
On n'a rien trouvé du tout. Et la police, quand ils sont venus chez moi, on a commencé à discuter. Et ils ont, j'ai commencé à leur expliquer l'histoire. J'avais monté le syndicat CGT. Donc par la suite, le procureur a vu que j'étais pas du tout coupable, donc ils ont arrêté la poursuite. Mon père est décédé au mois de mai suivant, donc 2 mois après. Et moi, ça m'a traumatisé, psychologiquement, j'étais pas bien, quoi. Ça a duré plusieurs mois après, par la suite. J'ai rattaqué le boulot tout de suite pour pas rester en maladie. Mais ça a duré un petit moment. Et tout ça parce que j'avais monté un syndicat, quoi. C'est incroyable.
Donc, si vous voulez, nous, quand on a su un petit peu que notre camarade Thierry Lagnel avait une répression et puis qu'il tenait une maladie, donc, avec l'appui du commerce, tous les syndicats du Rhône, on a décidé d'aller faire une action un samedi. On était à peu près 70 personnes. Donc on est rentré tous avec un caddie, avec des tracts cachés, puis on a commencé à distribuer, on a foutu un petit peu la pagaille, le souk, si vous voulez. Donc suite à ça, donc comme ils ont vu qu'il y a eu une action qui a été menée par la CGT à Givors, le directeur, 3 semaines, 1 mois après, il a été muté. Donc parce que c'était ou lui qui giclait ou le directeur. Donc il y avait un choix. Et après, le jeu de la sécu, je sais pas combien de temps après, il est venu à Iculi. Donc,
Il y a des pièges qui ont fonctionné comme ça, ou des fois vous avez tendu des pièges?
Des pièges qui ont fonctionné, on est arrivé où ça a fonctionné, c'est l'hôtesse de sécurité qu'on avait, qui, discutait un peu trop avec les syndicats et une personne de la CGT. Elle discutait bien avec lui, elle prenait le café avec lui et tout. Et comme à plusieurs reprises, le chef sécurité l'a vu, alors ça lui a pas trop plu, et un jour il m'a appelé dans son bureau, il m'a dit voilà.
J'étais embauchée par une société de sécurité, donc qui était prestataire de service pour Carrefour et Cluny, et puis au début ça se passait très très bien. Hein. J'y suis restée quand même presque 2 ans, 1 an et demi. Le chef sécurité, il a monté un coup de façon à ce qu'il puisse me virer, quoi.
Peut-être... Pourquoi il t'a tendu un piège?
Je sais pas, peut-être parce que je lui convenais plus, peut-être que je parlais un petit peu trop avec tout le monde, que je m'entendais un petit peu trop avec tout le monde, ça lui posait peut-être problème.
J'ai rencontré les agents de sécurité qui ont été entre autres responsables du piège. Ils disent que c'est aussi parce que tu discutais un peu trop avec le syndicaliste de la boîte.
Oui, mais moi ça m'a jamais marqué, parce que c'est vrai que c'était quelqu'un avec qui je m'entendais bien. Si je montais en salle de pause et que je buvais un café, il était là, on buvait le café ensemble, puis on discutait en plus même pas du boulot, quoi. J'ai jamais discuté boulot avec cette personne. On discutait de tout et de rien, mais pas de boulot, quoi, puisque bon, j'avais rien à lui dire, moi.
Alors, j'ai rencontré une hôtesse de sécurité qui a été licenciée parce qu'elle vous parlait.
Elle buvait le café avec moi. Oui, c'était moi, ça. C'était bon. Mais ça, c'était le chef de la sécurité qui leur disait, faut pas lui parler. Même une fois, on distribuait un tract avec Monsieur Frenéa. Et puis, une hôtesse qui est passée, elle a pris le tract. Il est allé derrière elle. Elle lui a dit, il faut pas lire. Non. Elle lui a dit, écoutez, le tract, moi, je le dis, c'est à moi pour porter un jugement, c'est pas à vous. Donc, et je pense que c'est parti un peu de là qu'ils ont voulu la piéger. Moi, on précipe ici, et tous les nouveaux embauchés, quand ils sont embauchés, on leur dit, il faut pas lui parler à lui, à Gendouze, si j'étais. Et après, il y a M. Frenier. Bon, le plus pire, c'est moi, c'est la bête noire. Bon, une ou deux fois avec Michel, on a distribué un tract, et puis je suis allé aux toilettes, puis j'ai vu que j'étais un peu surveillé, qu'il y avait un cadre. Bon, j'ai lancé une vanne. J'ai dit, demain, certainement, on va faire une grève. Je vois bien la grève demain. Et puis, le directeur, il a su. Bon, de combat, tous les cadres en réunion et tout. Et puis le lendemain, ils avaient fini à 4h du matin. Puis moi, je suis arrivé tranquillement vers les 9h. Puis les cadres, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, fais pas grève. Ah ben, il y aura des questions, fais grève pour faire quoi? Ouais, c'était un con, t'as vu, nous on s'est réveillés à 4h du matin, on croyait que t'allais faire grève, j'ai dit, moi je fais pas grave.
Hein. Vous êtes à combien d'années de la retraite?
Quelques mois.
Quelques mois de la retraite. Parce que la question qui se pose, c'est, bon, vous d'être des lutteurs sociaux, on peut dire, mais où est-ce qu'elle va être la relève, ici ou...
Très mal, je vois. Très mal. Parce que quand on recrute, il y en a certains qui sont fragiles mentalement, on les convoque et puis se retirent de la liste pendant les élections. Ça fait déjà deux fois que ça nous arrive. Il y en a du mal à recruter, je vous dis franchement.
Alors que vous recueillez la majorité des suffrages, vous avez du mal à faire des listes complètes pour les élections?
Ouais. Très très dur.
Donc finalement, la répression est quand même efficace.
Oui, évidemment. Très, très efficace, ouais. Et après, c'est aux salariés à se battre. Moi, pour les caméras, moi, je trouve c'est un peu dommage que les salariés ne bougent pas, parce que je prends un exemple, il y a 4 ans, il y a une usine qui s'appelle Anoflex qui est basée sur Rieux, qui font du plastique pour les voitures. Donc, si vous voulez, le lundi matin, les salariés, ils arrivent, et puis, ils ont constaté qu'il y avait des caméras. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient 400 dehors. Les caméras, ils ont été retirées. Donc, il y a eu une poussée.
Et justement, là, ce que n'a pas l'air de vouloir Carrefour, c'est que l'esprit prolétaire, l'esprit ouvrier, l'esprit collectif finissent par gagner dans la grande distribution. Alors que les ouvriers du 21e siècle, ils sont aussi dans la grande distribution. Les caissières sont même beaucoup moins bien payées que des ouvriers.
Oui, c'est ça.
C'est presque admirable en un sens. C'est extraordinaire. Ils arrivent à payer des gens 800 € par mois. Et ils n'ont pas de grève derrière. Donc ça veut dire qu'il y a un travail pour contenir tout ça qui est absolument colossal, non?
Ils sont formés. On avait même un document, je ne sais pas si je le retrouve, où il disait qu'il fallait isoler la CGT parce qu'elle est toujours menaçante.
Vous l'avez, ce document? Donc là, on fouille dans une armoire qui est pleine de dossiers. Alors là, vous avez sorti un document.
Qui émanait de la direction de Carrefour France.
Donc c'est marqué Carrefour document direction, et puis il y a un slogan humaniste, hein, un esprit à partager tous ensemble. Donc ça, c'est le côté solidaire, tous ensemble.
Voilà.
Donc là, à toutes les pages, il est marqué qu'il s'agit de renouer le dialogue, voilà, social, d'entretenir le dialogue social.
Nous isolerons la CGT toujours menaçante.
Donc là, ils mettent que Carrefour développera son image sociale en interne comme à l'extérieur, et sur la même page où ils marquent qu'ils vont développer leur image sociale, ils marquent en dernière ligne, nous isolerons la CGT toujours menaçante. Toujours menaçante, c'est toujours le couteau entre les dents. Quoi,
oui, non, mais ils ont l'impression que la CGT, elle est là pour casser l'entreprise ou rien. Bon, c'est bon. Dès qu'on distribue un tract, ils ont l'impression qu'on va faire une grève.
Carrefour vous suit dans toute la France. Carrefour.
Grand matin, m'au lever, m'abourrez-moi le travail. Si te disais à l'y sonner la roue, si m'aurait tout dans la peau. Grand matin, m'au lever, m'abourrez-moi le travail. Si te disais à l'y sonner la roue, si m'aurait tout dans la peau. Les temps m'aurait tout dans la peau. Moi, tout m'a petit modifié, tout m'a petit modifié avec un poignet, la sang dans la veine. Parole maudit à Pichina, photo maman finale, maman finale, la boutique s'il va qu'on dégarde, pour fiximer la boutique, motan disquité racinois, fait disquité racinois avec sauver la raque dans la main. Parole maudit à Rosita, un joli femme pour ma grand, un joli femme pour ma grand, aux aînés finis dans la boutique, prenne la collée à mon moi. Grand matin, Se dans mon retour la cour, moi tout mon petit maudité, tout mon petit maudité avec bonnier la sang dans la main. Parole maudit et petit là, quand maman finale, maman finale la boutique si noir qu'on égale. Mon pixi met la boutique, mon tandis qui terra si noir, mais dis qui terra si noir avec sauvé à la rate dans la main. Parole maudit à vos égards, un joli femme pour moi toi. Et destiné dans la bouche, prends la colère pour moi, prends la colère pour moi, prends la colère pour moi, Maurice, dis-moi-même dans la boue.
J'ai entendu les émissions de sur Carrefour. Ben nous on a réglé le problème un peu différemment, on n'y va plus ou presque plus, disons beaucoup moins qu'avant, et du coup on s'en porte pas plus mal, on consomme nettement moins, on a des légumes qui viennent des jardins de Lucie, c'est une société, une structure associative qui fait de la réinsertion par le maraîchage. On a de la viande du boucher du coin qui est bien meilleure et on en mange un peu moins d'ailleurs. Et voilà, il nous reste de temps en temps de l'épicerie, mais les supermarchés, ben non, ben c'est fini, quoi. Et puis ça va très très bien comme ça. Bye bye.
Oui, bonjour. Bon, je suis en train d'écouter la fin de l'émission d'aujourd'hui, là, le menteur, là, qui vient de parler, là, la ressource humaine, là. Bah moi je crois que ces gens-là faudrait appliquer un petit peu leur méthode et puis lui foutre un beau procès au cul. Et puis je serais prêt à soutenir on pourrait même au niveau de là-bas si j'y suis, de faire un collectif pour entamer une procédure contre ces gens-là, quoi. Que ça aille en justice un petit peu, parce que c'est tout à fait illégal. Voilà, au revoir.
Bonsoir, c'est Joseph de Marseille. J'ai bien aimé les réactions à l'émission sur Carrefour, mais je crois qu'on ne peut pas se limiter à dire que Gaston est un salaud, parce que dès lors qu'on a une famille à nourrir, on devient tous à 80% des salauds. De même, bon, c'est bien qu'il y ait un audit d'un Carrefour, mais je pense que on peut pas accepter l'explication du cas isolé. Je crois que, comme tu l'as dit, Daniel, c'est au niveau du système. C'est la pression. À partir du moment où on demande, dès le matin même, on dit au magasin, voilà, vous êtes le premier, ou hier, maintenant, vous êtes le 15e, parce que hier, il y en a 14 devant vous qui ont fait plus de chiffres à ce moment-là. C'est toujours plus à n'importe quel prix. Je crois que la cause, c'est le système. Et si on remonte au sommet de la pyramide, la cause, c'est les rentiers et qui ne font rien, en quelque sorte. Parce qu'on dit toujours, les fonctionnaires ne font rien. Je crois que les rentiers, il ne faut pas oublier que c'est dès lors qu'ils demandent 10 à 15% de bénéfices, c'est pas possible, quoi. Forcément, c'est la destruction. Moi, j'espère qu'il y aura des rentiers qui, de plus en plus, referont comme avant. Ils demanderont 5% de rentabilité. Et c'est déjà deux fois plus que le plan d'épargne. Malheureusement, il y en a de moins en moins de cela. Peut-être qu'il y en a plus. C'est une race terminée. J'espère qu'elle reviendra. Et je crois que c'est pour ça que tout augmente. L'eau, l'essence et bientôt l'électricité, les autoroutes. Et merci le néolibéralisme de la droite et le néolibéralisme de la droite de la gauche. Mais vraiment, on commence à en avoir ras-le-bol parce que les CPE, c'est là aussi, c'est dans ce système qu'il faut rechercher la cause de tous nos malheurs actuels. Allez, la révolution est individuelle, mais il faudra quand même se mettre à plusieurs. Bonne soirée, à bientôt.
Oui, bonjour Daniel Mermet et son équipe. Voici des échos du premier repère de là-bas si j'y suis, à Autun, en Saône-et-Loire, au café Le Point Bar. On était environ une douzaine de différents horizons. Il y avait des intermittents du spectacle, un médecin, des fonctionnaires, des retraités, des artisans. Bon, c'était très convivial. Les discussions étaient chaudes sur les sujets d'actualité. C'était bien parce que c'était dans le respect de la parole de l'autre et dans l'écoute. Puis ensuite, il y a Marc et Philippe qui nous ont parlé de la directive de Bolkestein, qui est une vraie catastrophe. Et à ce sujet, on appelle tout le monde à aller à Strasbourg demain, samedi 11 février, devant le Parlement européen. Alors, dans les différents départements, pour y aller, renseignez-vous auprès de certains syndicats et de certains partis politiques. et j'espère qu'on sera nombreux, nombreux là-bas. Petite anecdote, lors de ce premier repère, il y avait un tout jeune adolescent qui accompagnait son père, et lors de la présentation, il a dit qu'il était là parce qu'il n'aimait pas Sarkozy. Ça promet. Prochain repère, le sujet sera la décroissance. Et comme on a décidé que l'animation tournerait, eh ben ce sera Philippe qui présentera tout ça. Salut!
Voilà, ça finit bien, hein, avec le repère d'Autun, voilà. Il y a un peu de tout, des gens de différents âges, différentes conditions, différentes sensibilités qui se réunissent autour de sujets différents qu'ils décident eux-mêmes. Et voilà, ça se passe comme ça à Autun, et ça se passe maintenant comme ça dans à peu près 25, on en a 25, 27 points repères des amis de la base, j'y suis, et on continue. Voilà, le reportage était de François Ruffin aujourd'hui, et puis les messages sur les répondeurs, c'était de vous tous. Souvenez-vous on a entendu des phrases comme un esprit à partager tous ensemble. Souvenez-vous de cette phrase. Souvenez-vous aussi de l'image sociale. Vous en entendrez parler à nouveau mercredi dans la basse. J'y suis avec Eric Azan, qu'on recevra pour le bouquin qui vient de sortir, le petit livre qui vient de sortir, formidable. LQR ou la propagande au quotidien. Toutes les informations sont disponibles sur le site de Radio France. La rubrique émission Là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui Clément Léotard et Jérôme Pavard. C'est Yann Chouquet et Coyenne Guyenne qui ont réalisé cette émission modeste et géniale, il faut bien le dire. Assisté de Pascal Pascariello et de Christophe Imbert qui a fait tout le boulot sur le répondeur de Là-bas si j'y suis au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com, réclame.